Hebdo Région. 7 jours dans les pays de la Loire.
Damien Le Boulanger.
Bonjour, l'actualité de la semaine résumée en 25 minutes, c'est tout de suite dans l'Hebdo Région, une émission concoctée par les rédactions de Laval, Le Mans, Nantes, Angers et La Roche-sur-Yon. On y parlera cette semaine de la reprise de l'abattoir mayennais du groupe Doux, seul en France à ne pas connaître de réduction de personnel. Un soulagement dans le département nous expliquera Samuel Pécaud de Fidélité Mayenne. Juste à côté, en Sarthe, Adrien Blanc de RCF Le Mans s'arrêtera sur les difficultés que rencontrent les aides à domicile. Leur fédération a tiré la sonnette d'alarme cette semaine. En Loire-Atlantique, tous les regards se sont tournés ce jeudi vers l'Elysée et le Sahel. Les parents de Pierre Legrand, l'un des otages français encore retenus au Mali, ont décidé de rompre le silence. Vous l'entendrez grâce à Anthony Torzac de Fidélité Nantes. Nous évoquerons aussi le début des vendanges dans le Val-de-Loire avec les premières récoltes dans le secteur d'Anjou-Saumur. Une vendange 2012 très attendue, nous dira Élise Lemaire de RCF Anjou. Enfin, inévitable ce week-end, les journées du patrimoine sur le thème des patrimoines cachés. Nous irons en Vendée avec Fanny Brevet découvrir une visite pour le moins originale, loin des vieilles pierres.
L'Hebdo Région, au cœur des Pays de la Loire.
Et on commence tout de suite cette Hebdo Région en prenant la direction de Laval où nous retrouvons Samuel Pécaud de Fidélité à Mayenne. Bonjour Samuel.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Alors le fait de la semaine pour vous est lié à l'actualité du groupe de volaille Doux avec un soulagement sur le front de l'emploi à Mayennais.
Oui, la bonne nouvelle nous est venue lundi du tribunal de commerce de Quimper qui a validé l'offre de rachat de l'abattoir de Laval par le géant de la volaille LDC, le voisin sartois de Sablé-sur-Sarthe. L'abattoir de découpe de poulet appartenait jusqu'à présent au groupe Doux qui a été placé en redressement judiciaire le 1er juin dernier. Le soulagement a donc été proportionnel à l'inquiétude qui a été grande tout l'été pour les 303 salariés mais aussi les 80 éleveurs qui approvisionnaient l'abattoir en volaille. Denis Lambert, le PDG de LDC, nous explique pourquoi il a souhaité racheter l'abattoir lavallois.
On avait un site à Château-Gontier, qui est aussi en Mayenne. On avait un site à La Chapelle dans l'Aisne, qui est au sud de l'Orne, donc tout près de la Mayenne. Et ces sites-là étaient saturés en découpe poulet. Et ça va nous permettre de répondre à la demande de nos clients sur Laval. Un site qui est plutôt spécialisé vers la grande distribution et les marques distributeurs. C'est-à-dire de la découpe poulet, du poulet pour la grande distribution. On va faire des marques distributeurs. Et puis s'il y a lieu de développer des produits à marque, on le fera. Mais c'est sûr qu'on n'a pas repris la marque perdue.
Tous les salariés, y compris les employés en CDD, sont repris par LDC. Denis Lambert est venu à Laval mercredi matin les rencontrer. Il prévoit d'investir 5 millions d'euros sur 3 ans dans la modernisation des chaînes de découpe. Et on l'entend, Denis Lambert a effectivement de l'ambition pour son nouvel abattoir.
Ce qu'on pense avoir comme commande, c'est environ 240 000 poulets semaine. Certains clients de la grande distribution, il faut qu'on les remercie parce qu'ils ont été fidèles au site de Laval en laissant les commandes jusqu'au bout malgré et en attendant véritablement le tribunal. Et on sait déjà qu'ils nous font confiance pour reprendre les activités. Comme ça, pour ces clients-là, il n'y a pas de changement. Les produits étaient faits à Laval, ils continuent d'être faits à Laval. Voilà. Hein, on sait que c'est un site qui a les moyens de faire 300, voire 350. Ça leur donne effectivement, si c'est bien géré, un vrai potentiel de compétitivité supplémentaire. Il y avait plus de 40% de la production de volaille qui était importée aujourd'hui en France. Donc ça va venir directement baisser ce pourcentage et je pense que c'est important pour toute la filière.
Toute cette filière volaille était concernée par l'avenir de l'abattoir et la dernière bonne nouvelle, c'est aux éleveurs avicoles que Denis Lambert, le PDG de LDC, l'a réservé.
Les contrats éleveurs pour les éleveurs qui accepteront de travailler avec nous, on les reprend.
Satisfaction donc en Mayenne, mais sans oublier que 3 sites ailleurs en France n'ont pas trouvé preneur et que 1000 salariés du groupe Doux vont perdre leur emploi.
Dans le reste de l'actualité de votre département, Samuel, Bernadette Chirac sera en Mayenne ce dimanche.
Oui, elle vient inaugurer la chapelle de Varennes-Bourreau sur la commune de Saint-Denis-d'Anjou, dans le sud Mayenne. Et avant l'inauguration, pour marquer la fin des travaux de restauration, une messe sera célébrée à 10h45 dimanche par l'évêque de la Mayenne, Monseigneur Thierry Scherrer.
Dans un tout autre genre, surprenant mais vrai, il existera bientôt un petit bout de Mayenne en Norvège.
Effectivement, pour éclairer les allées de son parc au pied des fjords, la ville de Falger en Norvège a choisi les lampadaires intelligents de l'entreprise lavalloise Design Composite. Les Norvégiens ont été séduits par les innovations écologiques de l'entreprise. Ces luminaires sont en effet conçus en fibre de lin et équipés de LED qui s'allumeront en pleine intensité seulement lorsque les capteurs détecteront la présence d'un piéton ou d'un cycliste.
Retour dans les pays de la Loire, où la région donne un coup de pouce au pouvoir d'achat des salariés ligériens.
Oui Damien, en tout cas pour ceux qui ont un abonnement TER domicile-travail. Depuis le 1er septembre, ces habitants des pays de la Loire voient le coût de leur trajet plafonné à 1 € par voyage, une fois déduite la prime de l'employeur. Dans un contexte de flambée des prix des carburants, la mesure risque d'intéresser bon nombre de salariés. Ici, ça concerne en particulier les Mayennais qui prennent le train pour aller travailler au Mans ou le bus pour se rendre au travail à Angers. La région espère par cette mesure inciter à l'utilisation des transports en commun. Elle pense que ça concernera 4000 travailleurs qui fréquentent l'une des 29 lignes régionales de transport collectif dans nos 5 départements. Et elle a pour ça budgétisé 750 000 euros.
Et pour terminer, Laval sera pendant 5 jours la capitale de la jeune création artistique, Samuel.
C'est en effet l'ambition du festival Le Chaînon Manquant que de permettre aux jeunes artistes de se faire connaître à la fois du grand public, mais aussi des professionnels de la culture. Ce festival était avant basé à Cahors, dans le Lot, après avoir démarré à Tours, et ses organisateurs ont donc choisi Laval pour présenter leur 21e édition. Alors pas de grands noms dans la programmation, du moins pas encore, car Mathieu Chédid, alias M, Zebda, Thomas Fersen ou encore Jeanne Chéral, la chanteuse nantaise, ont bénéficié de l'effet tremplin de ce festival. Laval sera donc peut-être la ville d'éclosion des talents de demain, de la chanson, du théâtre ou encore du cirque. 68 artistes sont attendus pour 110 représentations. Pour les découvrir, rendez-vous donc en Mayenne du mercredi 19 au dimanche 23 septembre, en sachant que des spectacles du Chaînon Manquant sont aussi organisés dans toute la région, notamment à Nantes, Cholet ou au Mans.
Merci Samuel et bon week-end.
L'Hebdo Région, l'actualité des Pays de la Loire.
Adrien Blanc, bonjour.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
On vous retrouve comme chaque semaine depuis les studios de RCF Le Mans pour nous parler de l'actualité en Sarthe. Une association nationale d'aide à domicile appelle l'État au secours. Adrien, vous avez rencontré son président qui est sartois.
Oui, Jean-Louis Lemierre est très inquiet pour l'aide à domicile qui consiste à accompagner les personnes âgées dans la vie de tous les jours. En tant que président national de la FNAFP, la Fédération Nationale des Associations d'Aide Familiale et Populaire, il constate que de nombreuses associations ont du mal à rentrer dans leurs frais. Et c'est le cas par exemple d'Aide à domicile 72, dont il est aussi président. L'association est en déficit depuis plusieurs années. Elle a même dû demander l'aide financière d'un fonds de restructuration auprès de l'Agence Régionale de Santé. Mais en échange, pour faire des économies, elle doit laisser partir ses salariés les plus expérimentés. C'est une aberration, selon Jean-Louis Lemierre.
Effectivement, nous avons un déficit sur l'activité allocation personnalisée d'autonomie, c'est-à-dire les personnes âgées, depuis 2008, qui fait qu'on a un peu épuisé nos fonds propres. Ceci parce que le Conseil général, il faut bien le dire, ne nous autorise plus à pratiquer un prix qui nous permet l'équilibre. Pourtant, on nous dit qu'on a des frais de gestion faibles, parce que le Conseil général a fait pratiquer un audit, mais nous avons des personnes qui sont expérimentées et qui ont fait des validations d'acquis d'expérience, etc., qui ont de l'ancienneté. Alors figurez-vous, c'est tout à fait incroyable que les personnes qui ont de l'ancienneté dans notre convention collective, elles gagnent un petit peu plus chaque année. Enfin, ça ne dure pas 50 ans, mais elles gagnent un petit peu plus chaque année. Et on dit, ah oui, vous avez un petit peu trop de personnes de cette catégorie C, là. Écoutez, non. D'abord, on n'a même pas les moyens financiers de licencier. Et puis, alors, j'en ai surtout pas la volonté. Parce que je n'imagine pas que des personnes qui ont passé 15 ou 20 ans au service de personnes âgées dans notre association, qu'on puisse vouloir les licencier.
Alors Jean-Louis Lemierre en appelle au pouvoir public. Il demande au Conseil général de rehausser de 1 ou 2 euros le tarif horaire de l'aide à domicile, qui est de 21 euros en Sarthe. Il demande aussi à l'État d'appliquer ses promesses, puisqu'on le rappelle, Nicolas Sarkozy avait fait de la lutte contre la dépendance sa priorité. Jean-Louis Lemierre a été un peu entendu, puisque les associations ont obtenu de l'argent de la part du fonds de restructuration, mais il faut explorer encore d'autres pistes, selon lui.
Le fonds de restructuration a été une bouée de sauvetage pour un certain nombre d'associations, avec des grandes différences, parce qu'effectivement, je suis président de la Fédération nationale à laquelle on appartient. Alors, dans certaines régions, les déficits ont été compensés à 80%. Dans notre région, c'est seulement 30%. J'ai rencontré Madame Delaunay récemment, la ministre des Personnes âgées, justement, et je lui ai exposé ces sujets qu'elle connaît, mais elle découvre aussi un certain nombre de choses. Nous avons aussi tenu une réunion des 4 grands réseaux d'aide à domicile récemment sur la région Pays de Loire pour essayer de se concerter, de voir comment on peut parler avec l'Agence régionale de santé. Et mon collègue de l'UNA, qui est une grande fédération nationale, sur les Pays de Loire, m'a dit, mais 20,96 €, mais c'est du dumping social. En Maine-et-Loire, nous en sommes à 24-25 €. Il y a la CSG qui peut financer ça, mais en même temps, je suis tout à fait conscient que la CSG, alors déjà on va l'utiliser pour boucher des trous ici ou là, chacun dit ben, on pourrait mettre un peu plus de CSG pour la santé, on pourrait mettre un peu plus de CSG pour la dépendance, on ne va pas non plus mettre 3 ou 4 points de CSG en plus dans les années qui viennent, hein. Ça serait très très lourd pour les salariés et les gens qui ont des revenus.
Et donc, en attendant de l'argent frais, les associations d'aide à domicile resserrent toujours plus les boulons et elles proposent d'autres services d'aide à la personne, comme dans le privé. Pendant ce temps, les régions de l'Ouest investissent des centaines de milliers d'euros dans des entreprises qui n'existent pas encore. Ça s'appelle le capital amorçage et ça consiste à aider une entreprise dès sa naissance alors qu'elle n'a pas encore d'activité ni de salariés. 4 conseils régionaux de l'Ouest, dont celui des Pays de la Loire, ont déjà mis 8 millions d'euros dans l'aventure. C'est en fait un pari sur l'avenir sur la base d'idées innovantes. Le gestionnaire des fonds, Go Capital Amorçage, dispose déjà de 30 millions d'euros en tout. Il pourra en investir jusqu'à 1,5 million par entreprise.
Alors dans un tout autre domaine, Adrien, la protection des rivières commence vraiment à énerver les agriculteurs.
Oui, lundi dernier, des membres des syndicats FDSEA et jeunes agriculteurs du bassin Loire-Bretagne ont manifesté devant les portes de la DREAL, la Direction régionale de l'environnement et de l'alimentation. Ils sont remontés en fait contre l'extension de la zone vulnérable qui définit les espaces qui doivent être protégés des nitrates. L'État veut classer la quasi-totalité de la Sarthe en zone vulnérable, ce qui obligerait les agriculteurs à utiliser moins d'engrais. Ils ont quand même reçu un soutien de poids au début du mois puisque le Conseil général de la Sarthe a voté un avis défavorable à l'unanimité. Et on termine avec un conseil vital. Ne jetez pas vos seringues à la poubelle. 2 employés de la propreté ont été blessés ces dernières semaines dans l'est de la Sarthe. Ils doivent subir un suivi médical de plusieurs mois avec un traitement médical lourd. Et donc on rappelle que les seringues, les bistouris et autres aiguilles doivent être jetées dans les conteneurs spéciaux disponibles en pharmacie sous peine d'amende ou de prison.
Merci beaucoup Adrien pour cette actualité sartoise. Nous vous retrouvons dès vendredi prochain. À bonne semaine.
Bonne semaine.
L'Hebdo-Région, au cœur des Pays de la Loire.
Et après Le Mans, direction tout de suite Nantes, où nous retrouvons Anthony Torzec de Fidélité Nantes. Bonjour Anthony.
Bonjour Damien et bonjour à toutes et à tous.
Et on commence l'actualité de la Loire-Atlantique avec l'accueil des communautés roms et un changement de politique dans l'agglomération de Nantes.
Oui, un vrai changement avec le nouveau président de Nantes Métropole, Gilles Rottière, qui arrive de Roumanie. Il a passé 3 jours sur place, précisément au nord du pays. Un déplacement réalisé en tant que maire de Rezé. Il a constaté un manque d'intérêt évident des pouvoirs locaux sur cette question des Roms, des pouvoirs également touchés par la corruption. Et ce voyage lui a fait prendre conscience que les aides au retour au pays ne sont pas toujours efficaces. Et quant à l'accueil ici dans l'agglomération nantaise, plus question d'offrir des mobil-homes. Bref, c'est ce que faisait avant Nantes Métropole et c'est ce que ne fera plus donc cette collectivité locale dans les mois à venir.
François Hollande a reçu jeudi la famille de Pierre Legrand.
Oui, Pierre Legrand, c'est ce jeune homme originaire de Couffé en Loire-Atlantique, actuellement otage au Sahel. Il est retenu depuis 2 ans avec 3 autres Français par les terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Depuis le début de cet enlèvement, les familles étaient restées plutôt discrètes à la demande du ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, elles s'impatientent. Écoutez le témoignage de René Robert, c'est le grand-père de Pierre Legrand.
Au bout de 2 ans de silence sans résultat, nous considérons qu'aujourd'hui, il faut changer d'attitude. Nous savons bien aussi et nous regardons autour de nous tous les otages qui ont été libérés et en particulier des journalistes, ce sont des otages dont on a parlé. Donc nous sommes décidés effectivement à parler maintenant et à demander la solidarité de tous les Français. La négociation et la discussion avec les ravisseurs, ce n'est pas notre affaire. Nous voulons simplement rappeler qu'il y a 4 personnes qui sont en danger dans le désert et que les autorités, les entreprises, l'État sont en charge de les ramener à la maison le plus vite possible. En même temps, nous découvrons autour de nous une très très grande solidarité et une capacité de tous les réseaux à être présents autour de nous pour nous soutenir, en espérant que très vite, on puisse les retrouver libres.
Témoignage de René Robert, le grand-père de Pierre Legrand, donc retenu au Sahel depuis 2 ans. Un quart de 70 personnes partira également de Nantes ce samedi matin pour un rassemblement de soutien qui aura lieu à Meudon. Un rassemblement à l'issue duquel un arbre de la liberté sera planté. Et puis Monseigneur Jean-Paul Jamme, l'évêque du diocèse de Nantes, invite également à la prière pour les otages et leurs familles. Une prière sera lue dans toutes les églises de Loire-Atlantique dimanche prochain, jour anniversaire de l'enlèvement des otages au Sahel.
Enfin, en bref, on revient sur la rentrée scolaire de l'enseignement catholique, Anthony.
Un enseignement catholique de Loire-Atlantique à nouveau bridé pour cette rentrée. 98 000 élèves ont fait leur entrée dans les établissements privés. C'est moins 240 élèves par rapport à l'année dernière. Alors non pas que l'enseignement catholique soit délaissé par les parents, bien au contraire. Dans une 20aine d'écoles du département, les directeurs et directrices ont dû refuser des élèves faute de moyens, des moyens humains mais également les moyens immobiliers. Beaucoup d'établissements sont vétustes et les finances ne suivent pas pour construire de nouvelles classes. Dans l'actualité également, le conseil général de Loire Loire-Atlantique qui a réalisé mercredi sa première récolte de miel. Et oui, du miel, il a installé sur le toit de l'hôtel du département 6 ruches. Il participe ainsi au programme national Abeilles Sentinelles de l'Environnement qui a pour but de sensibiliser au problème de surmortalité des abeilles dans notre pays. Une surmortalité due notamment à l'utilisation des produits phytosanitaires. Et puis les Sœurs Clarisses de Nantes fêteront dimanche les 800 ans de leur ordre depuis 1212 et la fondation par Sainte-Claire d'Assise. Ces religieuses vivent cloîtrées, sans ressources personnelles. Elles donnent leur vie à Dieu par la prière. Elles sont une trentaine au monastère Sainte-Claire de Nantes. Fidélité retransmettra d'ailleurs dimanche prochain la messe de clôture du 8e centenaire de la fondation de l'ordre des Clarisses à partir de 14h sur notre antenne et sur internet également, radio-fidélité.com. Enfin, je vous parlerai évidemment Damien aussi des journées du patrimoine. C'est ce week-end, vous le savez. Eh bien, en Loire-Atlantique, 14 sites ouvrent leurs portes pour la première fois. Voilà, bonne journée du patrimoine et on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine et bon week-end, Anthony.
Merci.
L'Hebdo-Région, l'actualité des Pays de la Loire.
Et on poursuit cette Hebdo-Région en allant tout de suite rejoindre à Angers, Élise Lemaire de RCF Anjou. Bonjour Élise.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
L'Anjou, où l'heure des vendanges a enfin sonné dans le Val-de-Loire angevin.
En effet Damien, la fédération viticole Anjou-Saumur a publié cette semaine les premiers bons de la cuvée 2012. Ainsi est autorisée depuis ce vendredi la récolte du Pinot Noir pour les AOC Crémant de Loire et Saumur Mousseux. Et à partir de lundi, pourront être ramassées les grappes de Chardonnay pour les AOC Crémant de Loire, Saumur Mousseux et Anjou Mousseux. Un coup d'envoi chaque année très attendu par les vignerons, même si ça n'a pas été la cohue dans les rangs de vignes ce vendredi matin. Il faut dire que la date de publication n'est pas pour les professionnels une véritable surprise, comme nous l'explique l'un d'eux, Laurent Daheuillet, et vigneron à Varin à côté de Saumur.
Le bon de vendange, on l'attend sans appréhension. En général, il est toujours un petit peu tôt parce qu'il y a toujours des parfums. Un petit peu précoce, on démarre toujours 2-3 jours plus tard. Donc après, niveau organisation avec les vendangeurs, il faut gérer tout un ensemble de cépages. Donc le but, c'est de démarrer en temps et en heure.
Et de fait, il débutera pour sa part les vendanges de ces 10 hectares dédiés au Crémant de Loire que mardi.
Alors les viticulteurs saumurois sont donc plutôt sereins, Élise ?
Sereins oui et non, car si la qualité semble au rendez-vous, 2012 ne sera pas l'année du plein profit pour eux. Le printemps tardif et la forte grêle de fin avril ont laissé des traces d'autant plus sévères que les vignes étaient en bio ou en transition bio, comme c'est le cas sur le domaine des Varinelles, la propriété de Laurent Daheuillet.
On sera soulagé de la ramasser rapidement et de plus en parler, quoi. Disons, de passer assez rapidement dessus parce que c'est une année qui a été très, très difficile avec une récolte moindre puisque sur les pinots noirs et les chardonnays, on s'attend à une baisse importante des rendements. Si on fait 40% de la récolte normale, ça sera bien. On espère un petit peu plus sur les chardonnays. Donc là, c'est un millésime qui va quand même nous laisser avec un déficit énorme en rentabilité, on va dire. Par contre, en qualité, on arrive dans des très bonnes qualités puisque la vigne a rattrapé son retard assez facilement. La météo du mois d'août et celle du mois de septembre vont permettre des très belles vendanges. Je pense que la végétation est largement suffisante pour faire un bon millésime.
Année qui pourrait bien être comparable à 2009, selon lui. À noter que, vu les prévisions de rendement, les viticulteurs ont été autorisés à les compléter cette année en achetant des grappes à leurs confrères. Mais cette pratique devrait rester à la marge, nous confie notre éleveur de Varin.
Tout le monde a été un petit peu touché et les vignerons vont se contenter de la récolte, avec une possibilité de peut-être de déstocker un petit peu les belles années avant, les beaux rendements des années précédentes. Et puis attendre une année meilleure, une année normale on va dire.
Et les vendanges vont se poursuivre sur l'ensemble du Val-de-Loire jusqu'à la mi-octobre, début novembre. L'an passé, le Val-de-Loire, troisième région viticole de France et première pour le blanc, a produit pas moins de 2,6 millions d'hectolitres de vin, dont 900 000 rien que sur le secteur d'appellation Anjou-Saumur.
En politique, amoral et anormal, c'est de cette manière que Christophe Béchu, sénateur UMP et président du Conseil général du Maine-et-Loire, qualifie le fait de verser des allocations aux parents d'enfants placés.
Ils ont en effet déposé avec sa collègue Catherine Deroche une proposition de loi visant à retirer l'allocation de rentrée scolaire et les allocations familiales aux parents d'enfants faisant l'objet d'un placement judiciaire. Des allocations qui concernent quasiment 2000 enfants sur le Maine-et-Loire et qui coûtent au département près de 80 90 millions d'euros par an. Selon Christophe Béchu, le Conseil général pourrait récupérer environ 2,5 millions d'euros, une mesure qui, selon lui, soulagerait les dépenses sociales sans impacter les finances de l'État. La proposition de loi devrait être étudiée, si tout va bien, courant octobre ou novembre.
Les élèves infirmiers, quant à eux, manifestaient cette semaine.
Ils étaient environ 250 à manifester dans les rues d'Angers jeudi après-midi, alors que se tenait au même moment une réunion régionale de la Fédération hospitalière. Les étudiants infirmiers réclament en effet depuis plusieurs mois la signature d'une convention entre leurs organismes de formation, la région et l'université, ce qui leur permettrait d'obtenir ainsi le grade de licence et donc d'avoir accès aux droits étudiants. Une convention signée partout, sauf dans les Pays de la Loire.
Et enfin, alors que se tiennent ce week-end les journées du patrimoine sur le thème de patrimoine caché, la bibliothèque municipale d'Angers vient de dévoiler sa dernière acquisition.
Oui, il s'agit d'un manuscrit du XVIe siècle écrit par un médecin angevin relatant un roman de chevalerie sur les contes de Dammartin. Un ouvrage plus que rare qui constitue pour la bibliothèque Toussaint son achat le plus important depuis presque 30 ans. Un achat qui représente près de 100 000 euros.
Merci Élise, bonne fin de journée à vous et à la semaine prochaine.
Bonne semaine Damien.
L'Hebdo Région, les radios chrétiennes à l'écoute des Pays de la Loire.
Et on parlait à l'instant avec Élise Lemaire de Patrimoine. On va en reparler plus longuement tout de suite avec Fanny Brevet de RCF Vendée. Bonjour Fanny.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Puisque vous avez choisi de faire votre dossier cette semaine sur les journées du patrimoine, sur un angle un peu particulier, on va y revenir. Mais tout d'abord, l'actualité de la Vendée a été marquée par une élection cantonale partielle dimanche dernier sur le canton de Maizet.
Le socialiste Daniel David, invalidé en juin, est arrivé en tête avec 47,9% des suffrages exprimés. Il obtient 34 voix de plus que le candidat d'hiver droite soutenu par la majorité départementale Jean Talino. Ils s'affronteront dimanche pour le second tour. Michel Crucis, président du Conseil général de la Vendée entre 1970 et 1988, s'est éteint lundi matin à l'âge de 90 ans. Il résidait depuis quelques mois dans une maison de retraite de La Roche-sur-Yon. Ce nordiste, avocat de profession, a été maire de Chantonnay de 1953 à 1995, député de 1958 à 1962 et sénateur de 1977 à 1995.
Actualité économique aussi cette semaine.
Aesnel, entreprise Cugnot-Lapeyre, a confirmé jeudi la suppression de 98 postes dans les semaines à venir. 60 opérateurs, 32 agents administratifs et techniques et 6 chefs d'équipe sont concernés par ce plan de sauvegarde de l'emploi. Et du côté de la Samro à Fontenay, dès la semaine prochaine, 153 salariés sur 200 seront en chômage partiel deux jours par semaine, les jeudis et vendredis, pendant une durée maximum de 10 semaines, selon la direction. Ce chômage partiel s'explique par un surstock de semi-remorques réalisés et en attente de paiement. Les deux autres sites du groupe, Nord-sur-Erdre, en Loire-Atlantique et Balbigny, dans la Loire, sont aussi concernés.
Alors, je le disais il y a quelques instants, ce week-end, à l'occasion des journées du patrimoine, de nombreux lieux seront ouverts au public en Vendée.
Et parmi eux, certains sont plus atypiques. C'est le cas de la ferme expérimentale des Établières à La Roche-sur-Yon, qui ouvre ses portes aux visiteurs dimanche de 10h30 à 17h. Une ferme de 140 hectares où sont élevées des vaches allaitantes de race charolaise. Quel est le rapport avec le patrimoine, synonyme le plus souvent de vieille pierre? C'est la question qu'Antoine Bélier a posée à Delphine Breton, conseillère prairie diversité à la Chambre d'agriculture de Vendée.
Un des outils premiers de l'agriculteur et principal reste la nature. Ce patrimoine, je dirais, naturel et paysager, finalement, façonné par l'agriculture, qui a évolué maintenant aujourd'hui, est à présenter parce qu'il est souvent ignoré. La ferme expérimentale des Établières est une ferme qui expérimente de l'élevage en production de viande. Des charolaises, donc il y a à la fois des mères avec des productions de veaux, des mères avec leurs veaux qui seront en pâturage aussi dimanche, et puis des expérimentations sur des jeunes bovins, donc avec des études sur l'alimentation donnée aux animaux à base de pâturage, d'herbes, de maïs.
Delphine Breton emmènera les visiteurs en balade tout autour de la ferme. Elle leur fera découvrir un système bocager très typé, les conduisant à travers les chemins d'accès aux champs, le long des cours d'eau et des haies, des paysages façonnés par l'activité humaine, lieu d'une riche biodiversité.
On pourra croiser lièvres, lapins, perdrix, perdrix rouges, perdrix grises, qui viennent vraiment faire leur nichée, qui ont un besoin finalement de cet habitat, leur habitat pour leur nichée, et la parcelle cultivée. Le principe de cette balade élevage et paysage est de parler de ce paysage en passant devant une haie, de parler de la biodiversité aussi dans la haie, de parler de la biodiversité dans la parcelle agricole, de parler des prairies, puisque l'élevage est bien aussi a conduit à ouvrir d'autres territoires que vont être la prairie et l'herbe. Et l'herbe est par définition un des habitats qui accueille le plus de biodiversité, à la fois végétale et à la fois animale. Alors il y a énormément de biodiversité, je dirais animale, que l'on ne soupçonne même pas, qui sont très petits, ou parfois on va même marcher dessus, mais qui vont avoir un rôle aussi pour l'agriculture.
La ferme des Établières à La Roche-sur-Yon n'est pas le seul lieu de ce type ouvert aux visiteurs dans les Pays de la Loire. À l'occasion des Journées du patrimoine, deux autres fermes bovines proposent ce genre de visite. Le GAEC de Montigné à Entrammes en Mayenne et la ferme de Serge et Jacqueline Cottier à Chantecé-sur-Bacone dans le Maine-et-Loire. Et on termine avec un mot de voile, Damien. Thomas Coville a établi un nouveau temps de référence pour la traversée de la Méditerranée en multicoque et en solitaire. À bord de son trimaran Sodebo, le skipper a mis un jour 1h36 minutes et 36 secondes pour rallier Marseille et Carthage en Tunisie.
Merci beaucoup Fanny pour cette actualité de la Vendée. Bon week-end. C'est la fin de cette hebdo-région réalisée par les journalistes et techniciens de vos radios chrétiennes des Pays de la Loire. Merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt.